américaine que nous avons entamée il y a plus d'un an, le sujet d'aujourd'hui ne concerne pas l'objet de notre espérance. Il ne s'agit pas de quelque chose que nous espérons, mais il s'agit de l'un des enseignements de l'Écriture concernant ce qui vient et d'un élément qui entre dans le contexte de notre espérance chrétienne. Il s'agit du châtiment éternel. Nous allons étudier ce sujet austère, mais d'une importance déterminante, délicat aussi. Et j'ai pensé à quelques versets à la fin du livre d'Ésaïe pour préfacer notre étude. Ésaïe chapitre 66, versets 22 à 24. Comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi, oracle de l'Éternel, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. De nouvelle lune en nouvelle lune, de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes criminels à mon égard. Car leur ver ne mourra pas, leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, ta parole est la vérité. Donne-nous un cœur humble et intelligent, confiant en ta bonté, pour que nous recevions comme tu veux la doctrine, l'enseignement de ta parole. Veuille me protéger d'écarts malencontreux dans ce que je vais dire, exposer en ton nom. Veuille nous permettre de bien nous comprendre mutuellement, de progresser dans la connaissance, dans l'intelligence, dans la foi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le châtiment éternel, a-t-on dit, est une vérité qu'il faut attester, prêcher, présenter aux autres, mais prêcher, attester avec larmes. La situation est une situation un peu paradoxale. En effet, les choses qui sont sûres dans l'Écriture, elles sont bonnes, et normalement elles réjouissent notre cœur. Malgré les dénégations de certains, nous allons y revenir, je crois qu'on doit dire que le châtiment éternel est une chose sûre que le Seigneur nous enseigne sans équivoque. Et pourtant, je crois qu'il serait dangereux, spirituellement malsain, de s'en réjouir. Un ancien étudiant de l'Institut biblique de Nogent rappelait qu'une fois à table, quelqu'un faisait une plaisanterie un peu douteuse, mettant en cause le châtiment éternel, et que M. Jules-Marcel Nicole l'a arrêté aussitôt. Sur un tel sujet, aucune plaisanterie. Je pense que M. Nicole avait raison. C'est une vérité qui doit nous étreindre si nos sentiments sont justes devant Dieu. Je crois pourtant que quand nous serons de l'autre côté du voile, que quand nous verrons toutes choses selon Dieu, que nous connaîtrons comme nous sommes connus, même cette vérité-là nous réjouira aussi. Que nous verrons comment elle s'inscrit dans l'harmonie des voies de Dieu. Mais si aujourd'hui ce n'est pas possible, je crois que c'est à cause des limitations de notre condition présente, que nous sommes trop faibles en quelque sorte, pour supporter de voir comment cette vérité s'harmonise avec le reste. Cela changerait notre façon même de la percevoir et cela nous ferait basculer d'un mauvais côté. Il est normal, sain, que nous frissonnions en parlant de ce châtiment éternel. Alors, quels sont les termes que la Bible utilise ? Celui de châtiment éternel est sans doute le plus rigoureux, celui qu'on trouve à la fin du chapitre 25 de Matthieu. Jésus dit qu'au terme du jugement, à l'issue du grand jugement, les uns iront à la vie éternelle et les autres au châtiment éternel. L'expression est biblique. On peut remplacer le mot châtiment par le mot peine. C'est exactement le même sens. C'est un synonyme en français et on peut utiliser soit l'un soit l'autre mot pour traduire les termes de la Bible elle-même. Dans notre confession de foi, il est question de peines éternelles ou dans nos règlements intérieurs, c'est équivalent, le châtiment éternel. Ce n'est pas l'expression la plus courante dans la conversation quotidienne, ce que connaissent les gens autour de nous. C'est habituellement le terme d'enfer que presque tout le monde a sur les lèvres à propos de notre sujet. Le cas du mot enfer est un cas assez particulier. Il n'est pas vraiment employé dans la Bible pour, en tout cas, le châtiment éternel. On peut l'employer comme une traduction du mot séjour des morts. Mais le séjour des morts, ce n'est pas l'enfer. Le séjour des morts, c'est une représentation vague, ça représente un peu la tombe, si vous voulez, et dans certains versets au moins, c'est le séjour des bienheureux, ou des futurs bienheureux. Donc ce n'est pas du tout l'enfer, selon le sens courant du terme. Le mot, dans son étymologie, veut dire simplement le lieu inférieur. C'est en latin la même étymologie que inférieur, le mot enfer. Et on le voit encore dans certains noms italiens. Je me rappelle, j'étais à Rome il y a déjà pas mal d'années, et il y a une petite ville dans la banlieue de Rome qui s'appelle l'Infernetto. Et ça veut dire le petit enfer, mais ça veut simplement dire le lieu situé assez bas, près du niveau de la mer, c'est tout. Donc, le mot lui-même veut simplement dire ce qui est en bas. Et les mots correspondants en anglais ou en allemand semblent avoir pour racine l'idée de creux, de ce qui est creux, hell. Ce mot semble signifier donc simplement à peu près ce qui est creux. Mais dans l'usage courant en français, le terme s'est chargé non seulement du sens du châtiment, mais encore en plus d'images particulières, parfois traitées en dérision. Pensez à certains quelconques d'Alphonse Daudet. Et je crois que du coup, utiliser le mot enfer peut prêter à beaucoup de confusion. Nous y reviendrons sans doute aussi à propos de ces représentations courantes. J'aurai des choses à dire. Quels autres termes dans la Bible elle-même? Un terme qui est en fait un terme image, métaphorique, qui est employé assez souvent par Jésus lui-même, c'est celui de géhenne. Et le mot géhenne est encore connu, n'est pas très très fréquent, mais encore connu de nos contemporains. Il faut savoir son origine. En hébreu, parce que c'est un terme qui vient de l'hébreu, il signifie le vallon de Hinnom. Gé, qui donne gé finalement en français, ça veut dire le vallon. Donc c'est le vallon de Hinnom. Un vallon riant, très plaisant, au sud-ouest de Jérusalem. Et pourquoi est-ce que le terme en est venu à désigner donc, le lieu du tourment des condamnés, des réprouvés? Parce que c'est là que les rois d'Israël et de Juda impies se sont livrés à l'idolâtrie. C'est là que se trouvait l'énorme brasier en l'honneur du dieu Moloch et qu'il jetait les petits-enfants en sacrifice à cette idole. C'est dans ce lieu, donc lieu d'un feu terrifiant, associé à l'idée de péché. Et Jérémie, on lit ça dans la première partie du livre de Jérémie, a été appelé par Dieu à aller dans ce vallon pour proclamer le jugement, pour y casser les cruches qui symbolisaient le peuple d'Israël et annoncer les terribles désastres qui allaient venir pour la ville. C'est à partir de là que le mot en est venu à désigner, dans le judaïsme, et Jésus a repris cet usage, donc le lieu du châtiment éternel. Il y a une tradition qui circule, et il m'est arrivé, moi, dans les temps anciens, de la colporter, mais en fait, elle manque de fondement. Alors, il vaut mieux donc considérer que non, c'est pas sûr. Il y a un commentateur juif du Moyen-Âge, mais vous voyez, c'est tardif. C'est au cours de notre Moyen-Âge, vers le 11e ou 12e siècle, qui a raconté qu'on brûlait dans ce vallon les ordures de Jérusalem. Alors c'est assez saisissant de dire « Ah, Gien, le lieu où on brûle les ordures !» Mais en fait, il n'y a aucun témoignage avant ce commentateur tardif, venu plus de 1000 ans après Jésus-Christ. Alors c'est probablement une histoire qu'il a rêvée, un élément inventé après coup, donc il vaut mieux ne pas s'appuyer sur ce prétendu renseignement. Donc le mot de Gehenne est employé. Quels autres termes dans l'écriture? Ce sont surtout des termes imagés qui sont employés. Jésus parle très souvent soit des ténèbres du dehors, soit du lac ou de l'étang, on peut traduire des deux manières, ardent de feu et de soufre. C'est deux termes qui sont employés assez souvent. Alors les ténèbres du dehors, c'est surtout dans les paraboles du grand festin, des noces, du fils de Dieu, du fils du roi. Les ténèbres extérieures, c'est là où on jette celui qui ne peut pas avoir part à la fête. Là où il fait nuit dehors. Hein. Le palais est tout illuminé. On y mange et on y boit dans la joie de la célébration. Mais il y a une zone obscure. Voilà ce que dit l'image. Lac où étant ardent de feu et de soufre, c'est un souvenir du châtiment de Sodome et Gomorre. Vous vous rappelez comment ces villes impies furent châtiées pour deux crimes que la Bible met en relief. Deux crimes qui sont étrangement en vedette dans notre propre situation culturelle. L'orgueil et l'homosexualité débridée. Voilà qui s'affichait. Ce sont les horreurs de Sodome et Gomorre. Et Dieu a fait pleuvoir une pluie de feu et de soufre. Peut-être, c'était une éruption volcanique, je ne sais pas, on ne sait pas comment Dieu l'a fait exactement, mais c'est cette image de cette pluie de feu et de soufre transformant ces villes en un lac de feu et de soufre qui a servi pour l'idée du châtiment éternel et que Jésus plusieurs fois a employé, qu'on retrouve encore dans l'Apocalypse. Et puis dans l'Apocalypse alors se trouve une expression particulièrement intéressante, celle de seconde mort. Le châtiment éternel, c'est la seconde mort, par distinction de la première mort qui est la mort du corps. Jésus lui-même avait dit ne craignez pas, nous l'avons rappelé la fois dernière, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de faire périr l'âme et le corps dans la Géhenne. Alors, première mort et deuxième mort qui implique l'âme et le corps dans la Géhenne. Donc, c'est une autre expression employée par l'Écriture. Alors, il y a peut-être encore d'autres termes, mais ce que je viens de dire constitue l'essentiel. Ces termes ont conduit la tradition chrétienne principale, fortement majoritaire, dont les chrétiens évangéliques aujourd'hui sont aussi les héritiers, à déclarer, ça se trouve dans certains documents de confession de foi par exemple, que les impénitents, ceux qui jusqu'au terme de cette vie terrestre n'auront pas accepté la grâce du pardon et de la vie éternelle par Jésus-Christ, seront condamnés à une souffrance perpétuelle, éternelle, qui sera le châtiment de leurs fautes commises sur la terre. Après le jugement dernier, il y a un état final par rapport à l'histoire, mais qui n'a pas de fin en lui-même, qui est celui du châtiment éternel dans la Géhenne de feu, qui est la seconde mort, et qui est réservée à tous ceux qui ne se seront pas repentis en réponse à l'appel qu'adresse l'Évangile. C'est là la doctrine classique, dite du châtiment éternel et des peines éternelles. Je crois qu'elle est juste. Elle est cependant fortement contestée. Et il y a même des évangéliques pour la contester. Donc il faudra que je vous l'explique dans un instant. Et d'autre part, j'estime, en ce qui me concerne, que des images sont associées à ce que je viens de dire, et que je vais maintenir, mais des images sont associées qui, elles, ne sont pas bibliques. Et que cela pourra nous aider de faire la différence entre l'enseignement biblique résumé, comme je viens de le faire, et puis ces images assez courantes. Je vais procéder en trois étapes, et puis j'espère laisser quelques minutes pour que nous puissions nous entretenir. Rappeler très, très rapidement l'enseignement des Écritures, faire une sorte de survol ultra rapide. Ensuite, parler des arguments contraires, des options rivales, et puis dire aussi comment je pense devoir répliquer, et puis alors venir en troisième partie à ces éléments correctifs par rapport à des représentations courantes sur le châtiment éternel. Alors passons en revue les données bibliques. Dans l'Ancien Testament d'abord, il faut reconnaître qu'il n'y a pas grande précision sur le sujet. À coup sûr, il est très souvent question de la justice de Dieu et de la nécessité que les péchés soient châtiés. Le principe dit de la rétribution que Dieu rend à chacun selon ses œuvres, il est abondamment attesté. Et que c'est une voie qui conduit à la perdition, que la voie de ceux qui n'écoutent pas les appels de Dieu, ça aussi, c'est partout présent. Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Ce genre de paroles, là je cite le Deutéronome, mais nous avons des variantes dans tout l'Ancien Testament, cela c'est très très fréquent. Mais qu'y a-t-il exactement sous les mots de mort, de perdition, de destruction, avadone, qu'est-ce que cela signifie exactement? Il faut reconnaître que le plus souvent, ce n'est pas très clair. On a l'impression d'une zone obscure, brumeuse, au-delà, et rien n'est dit de très clair à ce propos. Sauf dans deux passages essentiellement. Bon, d'abord, on pourrait dire que le livre d'Ésaïe est sans doute celui qui insiste le plus sur cet élément de doctrine dans l'Ancien Testament. Je suis très frappé par l'insistance sur ce thème. Il y a des passages hallucinants sur le feu de Dieu châtiant les péchés, le brasier éternel qui terrorise les pécheurs en Sion. Vous avez plusieurs passages d'Ésaïe qui sont de cette veine. Et dans la deuxième partie de son livre, qu'il a sans doute écrite dans sa vieillesse, qui est formée de 27 chapitres dans notre numérotation, 40 à 66, les trois groupes de neuf, parce qu'on peut distinguer trois groupes de neuf chapitres, neuf, vous voyez, se terminent par une parole d'avertissement solennel. À la fin du chapitre 48, premier groupe de neuf, hein, parce que zéro ça compte pour un, ça fait le premier groupe de neuf, il n'y a pas de paix, dit le Seigneur, pour les méchants. Deuxième groupe de neuf chapitres, il n'y a pas de paix, dit le Seigneur, pour les méchants. Troisième groupe, le verset que nous venons de lire, qui est le verset le plus insistant peut-être dans le livre et en général, avec cette vision, le ver qui ne meurt pas, le feu qui ne s'éteint point. Expression que Jésus reprendra, comme vous le savez aussi, je n'ai pas mentionné il y a un instant, mais justement Jésus reprendra de ce verset d'Ésaïe, c'est le verset final. Les prédicateurs aujourd'hui s'arrangent pour ne pas terminer par des paroles de ce genre. Hein, je sais bien sûr que moi aussi, hein, c'est comme ça. Quand on prêche, on essaye de terminer, même si on a des avertissements solennels, par des perspectives positives. C'est une parole de bonne nouvelle qu'on profère en dernier lieu. Mais je constate qu'Ésaïe n'a pas fait de cette façon, qu'il veut tellement solennellement avertir, qu'il conclut sur cette parole qu'on pourrait dire si négative. C'est lourd. Et il y a un mot, le mot horreur ici, qui est un mot extrêmement rare en hébreu, et on le retrouve dans l'autre passage, qui est extrêmement fort aussi dans l'Ancien Testament, c'est dans le dernier chapitre de Daniel. Il est question de la période finale. Et pour le temps final, il est dit au chapitre 12, verset 2, « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'abjection, ou l'horreur, si vous préférez, éternelle. » Parole qui lit ce qui n'était pas fait dans Ésaïe 66, le sort de l'horreur éternelle à la résurrection. C'est à l'issue d'une double résurrection, avec deux destinées qui s'en suivent, que donc certains vont à la honte et l'horreur éternelle. Dans le judaïsme, après la fin de l'Ancien Testament, cette doctrine a été assez largement reconnue. Pas absolument partout, il y avait des diversités, des courants, des sectes, etc., mais je pense qu'on peut dire que l'idée d'un châtiment éternel durant toujours a été assez clairement énoncée au sein du judaïsme. Et lorsque Jésus a prêché, il n'a pas été en opposition sur ce point avec le judaïsme de son temps, avec les docteurs de son temps. Il n'y a aucune controverse sur ce point précis. Mais ce que l'on constate, c'est que Jésus a particulièrement souligné l'affaire. Jésus en a vraiment fait un thème cardinal de sa prédication. En partie parce que Jésus a été un prédicateur de l'urgence. Il n'a pas seulement enseigné, il a enseigné. Il n'a pas seulement démontré par les Écritures avec des raisonnements solides, il l'a fait, mais il n'a pas seulement raconté des paraboles, mais il a voulu communiquer par tous les moyens le sens de l'urgence. Il faut se décider maintenant, le temps est proche, c'est le grand tri qui s'opère, et c'est la destinée éternelle qui est en jeu. C'est vraiment une note très très forte dans toute la prédication de Jésus. Simplement, pour vous en faire bien prendre conscience, si vous en avez besoin, rappelez-vous comment il réagit lorsqu'on lui raconte qu'il y a eu un terrible accident, un immeuble qui s'est effondré avec des tas de morts, la tour de Siloé. Et Jésus souligne immédiatement que ça ne voulait pas dire que ceux qui sont morts là étaient plus pécheurs que les autres. Et si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou encore pour l'urgence, si tu te rappelles que tu dois quelque chose à ton frère, vas-y, tout de suite, règle l'affaire. Jésus est très conscient que toute une période de l'histoire s'achève, que son œuvre inaugure les derniers temps, que selon la décision qu'on va prendre devant lui, on engage son éternité, et du coup, il parle très souvent avec grande solennité du châtiment. Et à propos, oui aussi, je mentionne encore ça parce que c'est tellement saisissant, puis nous passons dessus un peu trop vite, je crois, souvent. Jésus rappelle que si ta main, ton œil, etc., sont pour toi une occasion de chute, il vaudrait mieux les couper, s'arracher l'œil. Mieux vaut entrer borgne ou estropié dans la vie éternelle que d'entrer avec le corps tout entier dans la géhenne. Jésus veut vraiment communiquer à ses auditeurs qui se laissent si facilement distraire par les affaires de cette vie qu'il faut se décider, parce que c'est l'affaire de ce grand contraste, la vie éternelle ou le châtiment éternel. Et alors, dans la suite du Nouveau Testament, nous voyons ce thème qui continue de jouer un rôle important. Dans le livre des Actes, dans la prédication des apôtres, il est mentionné, mais assez rapidement. Il n'y a pas de développement. Je pense qu'on peut le noter. Mais à coup sûr, nous avons des mentions dans les épîtres de Paul. Je pense au premier chapitre de la seconde épître aux Thessaloniciens, par exemple, qui est très très fort sur le Seigneur qui revient dans une flamme de feu pour punir ceux qui se sont révoltés contre lui. Et puis alors il y a l'Apocalypse. L'Apocalypse qui évoque la seconde mort, qui en parle non pas tout à la fin, mais il y a des avertissements quand même solennels, un peu comme chez Isaïe, presque jusqu'au dernier verset dans l'Apocalypse, mais qui en parle aussi spécialement au chapitre 20, à propos du jugement du grand trône blanc, et qui en parle alors de manière encore plus développée. C'est un des passages les plus frappants à mes yeux, au chapitre 14. Au chapitre 14, je pense que je peux lire ces versets parce qu'ils sont vraiment très très importants. Donc, l'heure du jugement est venue, proclame le verset 7. Et un second ange, après celui qui faisait cette proclamation, proclame au verset 8, elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. Un autre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ça, c'est le contraste entre ceux qui meurent dans le Seigneur et les autres qui sont tourmentés jour et nuit sans trêve au siècle des siècles, d'après le texte. Je ne pense pas, mais là on pourra éventuellement en parler, que la catégorie, ceux qui se prosternent devant la bête et qui reçoivent la marque, signifie que ce soit un sort réservé à une sous-catégorie limitée de la population humaine. Cela est dit, sans doute pour des gens particulièrement touchés par l'influence du règne final de la bête, mais la bête elle-même, même si je crois que c'est un personnage historique qui viendra dans un temps donné, a un mystère qui agit déjà. Elle récapitule une opposition à Dieu qui est diffusée dans toute la civilisation humaine, de telle sorte que je crois qu'on doit étendre, de même que le mystère de la bête, de l'homme d'iniquité, est déjà à l'œuvre et s'étend à toute l'histoire, il faut aussi étendre à toute l'histoire ce qui est dit du tourment des adhérents de la bête dans ce passage. Donc je crois que ce serait une échappatoire qu'il ne faut pas essayer d'utiliser que de dire « Ah mais c'est juste pour quelques-uns au moment du règne de l'Antichrist ». Non, en fait, ça a une validité qui s'étend au-delà. Et cela peut s'appliquer au thème du châtiment éternel qui n'est pas restreint dans les autres passages à seulement une catégorie particulière ou restreinte. De ces passages semble bien ressortir, je crois que vous serez d'accord avec moi, la doctrine que j'ai résumée tout à l'heure, qui est la doctrine traditionnelle des églises chrétiennes, et qui est dans notre confession de foi aussi. Cependant, il y a des gens qui ont essayé de comprendre autrement, qui ont essayé, même en disant que c'est dans la Bible, de former une autre doctrine qui n'implique pas ce châtiment éternel dont la pensée nous angoisse, nous effraie. Donc il y a des motivations psychologiques très fortes à la recherche d'une autre doctrine possible. Alors, il y a principalement deux doctrines. Il y a des variantes, je veux dire, mais il y a deux grandes doctrines rivales. La première grande doctrine rivale, c'est celle qu'on appelle parfois universalisme, mais le mot lui-même est ambigu parfois, mais c'est celle selon laquelle il n'y aura pas, au bout du compte, de personnes qui subiront le châtiment éternel. Certains peuvent dire, oui, il y a un enfer, mais il sera vide. C'est une façon de parler qui existe. Tous les êtres humains seront, au bout du compte, sauvés. Ce sera un salut universel, dans ce sens, et d'où le mot d'universalisme. Et il y a quelques versets qui semblent dire ça. Tous meurent en Adam, tous revivront en Christ, dans 1 Corinthiens 15. Dieu a, par le sang de la croix, réconcilié tous les êtres dans les cieux et sur la terre. Voilà des Colossiens, des passages qui peuvent se prendre de manière universaliste. Encore Romains 11, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Encore dans la première à Timothée, chapitre 3, Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants, sauveur de tous les hommes. Voilà des versets que citent les universalistes, et donc ils éliminent le châtiment éternel. Alors il y a des variantes, comme je vous ai dit, la variante principale, c'est que pour certains, l'universalisme est un universalisme immédiat. Pour d'autres, c'est un universalisme au bout du compte, après un châtiment, mais qui n'est pas éternel, qui dure un temps, et au terme de ce châtiment, alors les êtres humains en cause peuvent accepter le salut, peuvent croire, ils ont une deuxième chance et ils la saisissent. Voilà un universalisme bis, un universalisme mitigé, mais qui peut être aussi défendu. Alors, le point principal concernant les universalistes, c'est toute cette masse de textes, c'est l'interprétation de toute cette masse de textes qui enseigne un châtiment éternel. Je viens de les évoquer, vous connaissez assez votre Bible pour que cela vous suffise à dire en effet, il y a tellement de passages. Alors comment est-ce que ces universalistes traitent ces passages ? Bon, il y en a, mais ce sont des libéraux et nous n'allons pas donc discuter avec eux qui les arrachent de leur Bible, qui disent la Bible n'est quand même qu'un livre humain, donc ce sont des idées obscurantistes dépassées, je les élimine. Bon, alors, cette attitude à l'égard de la Bible, nous ne pouvons pas la suivre. Nous recevons la parole de notre Seigneur avec une entière confiance et obéissance. Donc, mais il y a des évangéliques. Alors ces évangéliques, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais ces évangéliques qui tendraient à l'universalisme disent « Ces paroles sont données à titre d'avertissement ». C'est là que vous retrouvez l'idée de l'enfer vide. La menace de l'enfer, elle est terrifiante. Il faut la brandir. Mais nous avons cette assurance qu'au bout du compte au moins, l'enfer sera vide. Parce que Dieu fera en sorte. Alors ce ne sont pas des paroles trompeuses, puisque la menace est réelle, mais Dieu intervient pour que finalement personne ne tombe jusqu'au plus profond du gouffre. Ça c'est la première grande option. La deuxième grande option, c'est celle qui élimine aussi un enfer éternel, mais en éliminant ceux-mêmes qui seront condamnés au jugement dernier. Les impénitents ne sont pas sauvés, mais ils n'existent plus. Du coup, il n'y a plus non plus d'enfer éternel. C'est la deuxième façon d'éliminer la doctrine de l'enfer. Cette deuxième façon a une version plus forte et une autre qui se rapproche encore davantage de la doctrine évangélique. Alors la version plus éloignée, on l'appelle conditionnalisme. Elle signifie que l'homme ne continue à vivre au-delà du jugement qu'à condition qu'il ait cru en Jésus-Christ. Conditionnalisme, la post-existence, et en particulier éternelle, est conditionnelle. Les autres, ils cessent d'exister, c'est tout. Et le grand argument des conditionnalistes, c'est de dire l'idée de l'immortalité de l'âme est une idée païenne, une idée qui vient de la pensée grecque, n'est pas biblique. Cherchez dans la Bible, il n'est pas question d'immortalité de l'âme. Dans la Bible, il est dit que Dieu seul a l'immortalité. Et il est question de l'immortalité par l'évangile, de 2 Timothée. Donc, disent les conditionnalistes, c'est une idée fausse, non biblique, que l'homme continue d'exister toujours en son âme, et qu'ainsi, donc ceux qui sont châtiés, existent continuellement. C'est une idée fausse. En fait, c'est soit la mort, il cesse d'exister, s'ils n'ont pas cru, soit le cadeau spécial de la vie éternelle, qui est la condition de l'immortalité. Puis l'autre version, c'est la version donc plus proche de la version évangélique, c'est la version annihilationniste. L'annihilation, c'est l'anéantissement, si vous préférez, mais on emploie le mot annihilationnisme. Les impénitents, ceux qui ne sont pas tournés vers Jésus-Christ en cette vie, sont châtiés. Ça ne se fait pas en quelque sorte tout seul, comme pour les conditionnalistes. Ils sont châtiés à l'issue du jugement, mais ce châtiment, c'est leur destruction. Ils sont supprimés. Ils existaient jusqu'à ce moment-là, y compris dans leur âme, après la mort du corps, mais la seconde mort, c'est l'extinction de leur existence. Ils sont châtiés par l'annihilation de ce qui leur restait d'être. Ça, c'est la deuxième thèse, qui, dans sa structure, il faut le reconnaître, s'éloigne moins que les précédentes de la doctrine évangélique classique. C'est sans doute pourquoi un homme de Dieu remarquable, vraiment, je ne voudrais pas entamer son ministère, c'est pour moi aussi un ami personnel, il me fait la vaisselle dans son petit appartement, John Stott, qui est peut-être l'un des évangéliques les plus connus au monde aujourd'hui, adhère plutôt à l'annihilationnisme. Ça a été un assez grand choc pour le public de le savoir il y a quelques années, par discrétion, pour ne pas créer de remous, pour que ça ne nuise pas à son ministère. Il avait tenu cela discrètement en arrière-plan, sans le prêcher, mais il y a eu un livre de débat avec un théologien libéral qui l'a attaqué sur le sujet du châtiment éternel, et alors là, John Stott a bien été obligé de dire ce qu'il croit. Et là, il est apparu qu'il croit que les impénitents sont annihilés plutôt que donc continuellement tourmentés au siècle des siècles. Il y a eu beaucoup de débats ces dernières années, à cause précisément de cette position de John Stott et de quelques autres. Je vous signale qu'il y a 2 livres assez récemment parus en traduction française. Je vous donne là un élément de bibliographie, deux livres traduits, mais qui défendent la doctrine traditionnelle. Un de M. John Blanchard, il a un nom en français, mais c'est un Américain, mais on a traduit son livre, John Blanchard, qui a écrit un livre intitulé « Où donc est passé l'enfer ?», publié par Europresse, et le prédicateur charismatique David Pawson, P-A-W-S-O-N, a écrit un livre « Le chemin vers l'enfer », édition Carrefour. Tous les deux ont été publiés en 1993, donc assez récemment. Autrement, il y avait eu une série d'articles très fouillés dans les années 50 dans la revue Études évangéliques par le professeur Jean Cruvelier qui avait fait une thèse sur le sujet. Pour moi, ces articles ont été très, très utiles. Alors j'ai écrit un article dans la revue Ictus dans les années 70 où vous retrouverez ce que je vais encore essayer d'expliquer dans quelques instants. Et puis, j'ai écrit quelque chose de plus développé, d'un axe un petit peu différent, mais quand même sur le même sujet, mais en anglais, dans un livre entièrement consacré au débat. Un livre qui est issu d'un colloque qui a eu lieu à Édimbourg, avec des gens de la même position que John Stott. John Stott n'était pas là, mais d'autres de la même position, qui tendaient un petit peu à l'universalisme aussi, et débat entre nous. Et j'ai donc le chapitre final dans ce livre qui s'appelle Universalism and the Doctrine of Hell. Donc, je vous signale cela en bibliographie. Alors, arguments principaux des annihilationnistes, surtout, parfois ça touche aussi à l'universalisme. L'argument principal, sans doute, pour eux, c'est la notion de destruction. Et de mort aussi, assez facilement. Ce que mettent en avant constamment dans leur plaidoyer les partisans de l'annihilationnisme, c'est que la manière naturelle de comprendre les passages où il est dit la destruction des impies, le Seigneur Jésus les consumera par le souffle de sa bouche, l'image même du feu, tout cela doit nous faire comprendre qu'après l'application du châtiment, les gens n'existent plus. Quand vous brûlez une bûche, elle brûle, et puis après ça, il n'y a plus de bûche. Le feu du jugement, disent-ils, est un feu qui consume, détruit et donc anéantit ceux qui sont touchés par ce feu du jugement. C'est le titre d'ailleurs d'un des grands ouvrages en anglais, un autre auteur encore, mais que j'ai lu, sur ce sujet. Plaidoyer des annihilationnistes, très développé, près de 400 pages. Donc, ça c'est, je pense, l'argument qu'ils mettent en avant suprêmement. L'autre argument, c'est que le mot éternel, qui est utilisé dans les textes, le châtiment éternel, comme nous avons vu, Matthieu 25, et ruine éternelle, etc., feu éternel, tout cela est employé, ce mot ne signifie pas forcément que le châtiment dure perpétuellement, s'étire dans une durée infinie, comme on l'a compris dans la tradition de l'Église. Alors là, vous avez deux stratégies, en fait, complètement opposées de ceux qui remettent en cause la compréhension habituelle du mot éternel. Vous en avez certains qui insistent très fort, l'idée d'éternité, mais c'est tellement fort que ça élimine même l'idée de durée. Ça veut dire définitif. Plus rien d'autre. Donc, le feu éternel, c'est le feu qui règle la question une fois pour toutes. Ils sont supprimés, c'est éternel. Voilà l'idée qui est mise en avant par certains. D'autres, au contraire, disent « Oh, éternel, ça vient d'un mot qu'on peut traduire « siècle ». L'âge à venir, le siècle à venir, c'est le mot duquel le mot éternel dérive en grec. Alors ça veut simplement dire que ça dure un âge. Donc les méchants sont châtiés pour le siècle à venir. Mais il y a d'autres siècles encore après. Et le châtiment éternel, c'est un châtiment relatif à un âge dans le déroulement du plan de Dieu. Après quoi, pour certains, donc il y a une deuxième chance, ils peuvent être sauvés, pour d'autres, c'est l'anéantissement. Mais cette fois, on joue sur le mot éternel d'une façon inverse. Alors, que répondre à ces arguments et aussi aux arguments concernant l'universalité de l'œuvre de réconciliation telle qu'elle apparaît dans certains passages. Alors, en ce qui concerne le mot éternel, c'est le plus simple, je règle cette question. Je crois vraiment, mais c'est une enquête philologique et tout que nous n'avons pas le temps de faire maintenant, mais que les arguments ne tiennent pas. Honnêtement, je dis non, ça ne joue pas. Le mot éternel est bien relatif à l'âge à venir, mais cet âge à venir est toujours présenté comme sans fin. Jamais il n'est présenté comme devant s'achever un moment, et il n'y a pas de mot plus fort pour indiquer ce qui dure toujours. La suggestion dans son emploi, à propos de l'âge à venir, c'est que c'est infini. Donc, on n'a vraiment pas le droit d'ensuite restreindre, sous prétexte que le mot dérive d'un terme qui signifie âge. D'ailleurs, c'est même le cas pour le mot éternel, dans sa racine latine, en français. Donc, de ce côté-là, c'est pas possible. Et c'est pas possible non plus de dire, il n'y a pas de durée, c'est l'éternité comme... Vous voyez, une grande conclusion verticale. parce qu'il y a des expressions qui suggèrent à la fois l'infinité et la durée qui s'écoule. Nous avons vu au chapitre 14 de l'Apocalypse surtout. Sans repos, nuit et jour, au siècle des siècles. Vraiment, si ces expressions ne sont pas là pour indiquer ce que la tradition a mis sous le mot éternel, je ne vois pas comment la Bible aurait pu s'exprimer. Expression vraiment très forte, à la fois pour souligner l'aspect de durée et de durée illimitée. Donc, je conclus que les arguments sur le mot éternel sont spécieux. Les gens veulent trouver des moyens pour éviter la doctrine, parce que, oui, elle est difficile à admettre. Alors ils cherchent un peu n'importe quoi, mais non, ce ne sont pas de bons arguments. En ce qui concerne les mots employés par la Bible, là, il faudrait de nouveau faire une étude complète. Le mot « destruction », il ne signifie pas forcément « anéantissement ». Quand quelque chose est détruit, ces éléments sont encore là, même s'ils sont défaits. Ils ne sont pas simplement volatilisés. Dans la ruine d'une maison restent des ruines. Et le feu est dit un feu éternel, justement. Un feu qui ne s'éteint point. Bien sûr, un feu ordinaire, il s'éteint parce qu'il a besoin d'une matière qui ne peut pas résister à ce feu. Mais ce n'est pas précisément le cas d'un feu éternel qui ne s'éteint pas. Donc, les raisonnements qui sont tirés de la façon dont un feu agit ou dont la destruction s'opère, de nouveau manque de force. Et quant à la notion de mort, ça j'y insiste assez fortement, je crois qu'elle ne signifie pas, nulle part dans la Bible, non-existence. La vie et la mort sont deux formes d'existence dans la perspective biblique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une deuxième mort après la première. La première mort ne signifie pas que l'existence cesse. Alors c'est bien vrai que ce n'est pas appelé immortalité dans la Bible, et que nous faisons mieux de ne pas dire immortalité de l'âme. Mais il faut dire existence. La mort et la vie étant deux formes d'existence opposées. La vie, c'est l'existence épanouie dans le fonctionnement harmonieux avec la capacité d'agir. La mort, c'est une existence défaite, une existence paralysée, mais ce n'est pas une non-existence. Donc l'argument tiré sur le vocabulaire biblique, je ne pense pas non plus qu'on puisse le retenir. Quant au texte universel, tout dépend du texte qu'on considère. Mais je crois qu'aucun d'eux, bien étudié dans son contexte, n'enseigne que tous les êtres humains distinctement seront sauvés au bout du compte. Quand Paul dit que Dieu est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants, le mot « sauveur » n'a pas le sens du salut éternel. Le mot en grec avait un sens plus large que dans notre langage habituel de chrétien. Ça voulait dire bienfaiteur, qui fournit des avantages à la population. Les rois d'Égypte en particulier, ont pris le titre de sauveur. Ptolémée III, Sauter, c'est sauveur. Et le contexte nous parle des avantages de la vie présente et de la vie future. C'est le contexte immédiat dans 1 Timothée 3. Et le texte dit Dieu est le bienfaiteur de tous les hommes. Mais le principal, c'est le bienfait qu'il donne aux croyants. Tous les hommes bénéficient de ces bienfaits dans la vie présente. Dans ce sens, Dieu est le sauveur de tous les humains. Mais pour les croyants, c'est non seulement pour la vie présente, mais pour la vie future. Dans le contexte, je crois vraiment qu'on doit dire que c'est le sens du texte. Donc, ce n'est pas un enseignement universaliste. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ce n'est pas tous les individus, c'est les peuples, c'est Israël et les nations. C'est la grande vision sur la manière dont Dieu a organisé l'histoire de l'humanité. Les nations étaient dans la désobéissance. Dieu maintenant les accueille. Tous ceux qui croient d'entre les nations peuvent être sauvés. Et Israël est dans sa majorité dans la désobéissance. Mais Dieu lui fera grâce aussi par la conversion du plus grand nombre à la fin, et ainsi Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dieu a réconcilié par le sang de la croix tous les êtres. Oui, mais que veut dire le mot réconcilier là? Comme le reconnaissent même des non-évangéliques, il ne veut pas dire sauver, il veut dire remis dans l'ordre. C'était des ennemis, et Dieu a triomphé d'eux par la croix, et ils sont remis dans l'ordre de Dieu. Ainsi, les divers textes ne veulent pas dire ce que les universalistes leur font dire, et prétendre que les textes sur le châtiment ne seraient là que pour avertir, je crois que de nouveau c'est vraiment trop tiré. Surtout pensez en 2 Thessaloniciens 1, le châtiment des impénitents est donné comme un motif de consolation aux croyants. Donc là, c'est même pas pour avertir les incroyants, parce que c'est pas eux qui sont l'objet précis de l'exhortation de 2 Thessaloniciens 1. Donc finalement, vous voyez, j'abrège, mais il y a, je crois, possibilité de réfuter toutes les idées, tous les arguments de ceux qui ne veulent pas admettre la doctrine du châtiment éternel. Donc il faut l'admettre. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Mais je me suis rendu compte qu'il y a bien des idées qui circulent, qui, elles, ne sont pas dans la Bible. Et accepter les idées que je vous propose à la place change quand même la vision et peut-être peut rasséréner quelque peu le cœur. Première idée, qui est très répandue, c'est que les réprouvés, comme on dit, ceux qui sont châtiés, vont persister dans la révolte contre Dieu, qu'ils vont même aller jusqu'au paroxysme de la haine contre Dieu. Et vous avez des théologiens qui ont dit, c'est à cause de ça qu'ils ne peuvent pas être sauvés, etc. Mais du coup, vous avez le problème du mal qui continue à se produire dans l'histoire, d'une province perpétuellement révoltée, même si c'est une prison, dans l'univers. Où est la victoire de Dieu? Moi je dis, je ne vois pas une syllabe dans la Bible qui aille dans ce sens. Je pense que la Bible nous enseigne au contraire que le péché ne peut continuer à se produire dans l'univers que par une extraordinaire patience de Dieu, lui qui a tout pouvoir, en qui tous les humains ont la vie, le mouvement et l'être. Sans ce soutien de Dieu, il n'existerait pas. Donc, c'est par une extraordinaire patience du Dieu Seigneur qu'il le nargue, qu'il pêche contre lui, mais ce n'est possible que dans le temps de la patience. Le jugement, c'est précisément la fin de ce temps de patience. Plus question que le péché se commette. Nulle part, nous avons une suggestion que le péché continue de se commettre. Et le passage de Colossiens 1, Dieu a réconcilié tous les êtres, remis dans l'ordre, c'est le châtiment même pour les impénitents. Et Philippiens 2, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera. C'est pas contraint et forcé sans y croire, mais ce sera dans la pleine lumière de l'évidence, ils ne pourront pas faire autrement, ils le reconnaîtront. Donc, ils ne persisteront pas dans la révolte. Mais alors, si on a bien vu ça, et je vous fais remarquer par exemple que le mauvais riche, dans la parabole de Lazare et du mauvais riche, montre bien que déjà, dans l'état intermédiaire, qui anticipe le jugement, le mauvais riche voit tout à fait les choses comme elles sont. Il ne se révolte plus du tout. Donc, cela étant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les réprouvés sont d'accord avec Dieu, qu'ils acceptent pleinement leur jugement. Et à partir de là, je suggère que peut-être l'essentiel, en tout cas ça me paraît le cœur de l'affaire, du jugement, c'est en fait la lucidité sur soi de tous les réprouvés. Ils se voient tels qu'ils sont. Ils se jugent eux-mêmes d'accord avec Dieu. Leur péché est sur eux puisqu'ils ne l'ont pas remis à Jésus-Christ. Donc ils se voient, ils se jugent, ils se condamnent. C'est ça, leur division intérieure qui est leur souffrance. Le ver qui ne meurt pas, c'est le ver du remords en eux. Le feu, c'est le feu de ce sentiment de leur culpabilité pour laquelle ils sont jugés. En un sens, on pourrait dire que le châtiment, c'est la vérité. Au lieu de se masquer la vérité selon les illusions de ce monde, il voit les choses telles qu'elles sont dans la vérité. Ce qui, entre parenthèses, montre que il est fou de penser que Dieu serait injuste. C'est la vérité. C'est... Chacun se voit exactement selon la vérité de ce qu'a été sa vie. Donc, ça, c'est la première chose que je crois devoir mettre en relief, qu'il a peu été en doctrine. Mais je pense que c'est vraiment d'accord avec la Bible. Et deuxième chose, c'est la mort. Deuxième mort, c'est la mort. Alors, j'ai bien dit que la mort, ce n'était pas l'anéantissement. Ce n'est pas la disparition hors de toute existence. Mais c'est la mort. C'est-à-dire l'incapacité d'agir. La perte de ce renouvellement qui est la vie. Qu'est-ce que la vie ? C'est le renouvellement avec des possibilités nouvelles qui s'offrent à chaque instant. Mais la mort, c'est fini. Il n'est plus possible d'agir, de communiquer. La mort est d'une fin. Et il me semble que l'idée de seconde mort peut très bien être prise d'un état qui est fixe. La vie éternelle et les renouvellements, et nous ferons des choses diverses. Nous chanterons dans la chorale du Seigneur, mais nous aurons aussi des villes à gérer. Parce que ce sera la vie éternelle. Nous en reparlerons dans la dernière étude de la série. Mais la mort c'est la mort. Un état fixe qui dure. Et il me semble qu'il faut dire ça de la seconde mort. En un sens, on pourrait dire que c'est comme quand un film s'est déroulé jusqu'au bout et puis vous avez finalement sur le projecteur la dernière vue fixe. Enfin, la vie, ils l'auront entièrement écoulée dans l'opposition à Dieu et puis une fin où ils continueront d'exister comme un regard de honte sur eux-mêmes, sur ce qu'ils auront fait de leur vie, selon la vérité. Mais rien d'autre, aucun avenir, un état fixe. Voilà ce que je suggère comme interprétation de la notion de mort qui est bien dans la Bible. Alors vous le voyez, la définition générale du châtiment éternel que j'ai posée au début, elle est entièrement respectée. C'est un état qui dure perpétuellement de souffrance consciente, oui, mais fixe, de telle sorte qu'il n'y a pas de renouvellement. Alors je vous laisse réfléchir là-dessus, vous lire les textes que j'ai évoqués, mais je conclue en disant que, bien sûr, cette doctrine doit nous pousser à la reconnaissance pour ce à quoi nous échappons par l'œuvre de notre Seigneur Jésus et au zèle pour faire connaître à d'autres, afin qu'ils ne perdent pas leur vie, mais qu'ils reçoivent la vie éternelle en Jésus. Voilà, j'ai atteint mon heure, mais moi je suis prêt à répondre encore à quelques questions. Monsieur Berger a une question. Ceux qui doivent partir, bien sûr, peuvent partir maintenant.
Au ciel, il n'y a que du volontaire. En enfer aussi, il n'y a que du volontaire. Et c'est ici sur la terre que nous avons choisi d'où aller. Et c'est pour ça que, au jour du jugement, toute bouche sera fermée.
Voilà, ce n'était pas une question, mais un commentaire tout à fait justifié. Monsieur Sylvie.
Le mot bien riche, en fait, ça ne fait pas du tout.
Oui, la parabole de Luc 16, donc Lazare et le mauvais riche, est parfaitement claire. Sur ce point, il y a vraiment un enseignement qui est tout à fait dans l'axe de ce que nous avons dit. Et pas de deuxième chance après la mort, mais la solennité de cette vie qui est la grande chance de se tourner vers le Seigneur et de recevoir sa grâce. Oui, M. Chavan.
Tout à l'heure, tu as parlé de la réconciliation. Nous proposons une définition pour remettre les gens à leur place.
Oui, dans un ordre d'accord avec Dieu. Oui.
Est-ce que Nous n'avons pas le même rôle en proposant donc la croix aux interlocuteurs, de les remettre à leur place, soit qu'ils acceptent, soit qu'ils refusent. Ça évite le brouillard dans lequel ils sont.
Oui.
C'est pas forcément leur proposer une figure. Bien sûr, on doit refuser. Mais selon l'élection, on les met dans leur place. Non?
Oui. Oui. Je pense que je pourrais être d'accord avec ce qui vient d'être dit, et peut-être pourrait-on citer en rapport avec cela les versets de la seconde épître aux Corinthiens, à la fin du chapitre premier. Nous sommes odeur de vie et odeur de mort. En portant l'évangile, précisément, nous clarifions les choses. Les gens se situent là où ils veulent être, et prennent l'évangile même, soit comme ce qui annonce leur vie ou leur mort, leur vie éternelle ou leur deuxième mort. Oui, Madame Monneveau.
N'est-ce pas que cela a empêché l'amour plus que l'enfer, parce que l'enfer juge plus la sévérité de Dieu que la sévérité.
Alors la question porte donc sur ce qu'il convient de prêcher. Je pourrais répondre, mais c'est peut-être un petit peu une fuite, qu'il faut prêcher tout le conseil de Dieu, que l'apôtre Paul a eu cette expression. Donc dans un enseignement en tout cas continu, il faut inclure aussi le message du châtiment, en essayant, comme j'essayais de le faire, de le dissocier de certaines idées toutes faites qui ne sont pas bibliques. Mais il faut le prêcher aussi. Mais la question se pose, je crois que c'est celle de notre sœur Antoinette, concernant le message de l'évangélisation. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour les personnes qui doivent être touchées? Là, j'observe que les hommes de Dieu dans l'histoire ont procédé de manière diverse. Il y a eu de grands hommes de Dieu qui ont prêché quand même très fort le jugement. C'était en première ligne. Bien sûr, en disant l'amour de Dieu qui offre alors le moyen d'échapper à ce jugement, mais avec une note de jugement très très forte. Et d'autres qui ont prêché l'amour de Dieu d'emblée en instruisant sur le jugement seulement dans un deuxième temps. Moody, par exemple, mettait l'accent sur l'amour de Dieu dans sa prédication, comme vous suggérez de le faire. Moi, je constate que Dieu donc a suscité des hommes qui ont là adopté des tactiques, pourrait-on dire, différentes. Je crois que ça dépend des auditoires que Dieu suscite donc chez le prédicateur, le sens de ce qu'il devra faire, et qu'on ne peut pas établir là de règles qui vaillent pour tous. Jésus a prêché les deux. Oui. Je vois qu'il y a trois mains, alors je pense qu'il faudra achever avec ces trois questions. Hein, mais notre visiteur d'abord.
Après la mort, oui. L'âme, le non-chrétien, avant le retour du Dieu.
Alors, après la mort physique, donc je crois qu'il existe ce qu'on appelle classiquement état intermédiaire, une sorte d'antichambre de la destinée finale, qui est un état conscient, sans le corps, en attendant la résurrection du corps et le châtiment éternel pour ceux qui n'auront pas cru, et la vie éternelle pour ceux qui sont en Christ. J'en ai traité dans la précédente séance, dans la série. Donc il y a une cassette, monsieur Sidamon, si vous voulez, pourra vous la fournir. Mais voilà, en résumé, la réponse. Monsieur Zoueux et puis monsieur Jacques Richard. Vous ajoutez une pensée très sage, très bonne contre un malentendu possible. Je suis reconnaissant que vous l'ayez fait. Oui, merci. Monsieur Richard? Non? Ah, j'ai cru que Monsieur Richard voulait. Oui?
La théologie des églises catholiques est-elle universaliste?
Alors, elle ne l'était pas. Mais chez beaucoup de théologiens du XXe siècle, elle glisse vers un certain universalisme. En général, il n'est pas tout à fait clair et net, dépourvu d'ambiguïté. Le théologien jésuite Rahner, qui a été un des plus influents, suggère que les paroles sur le châtiment sont essentiellement des avertissements, qu'il ne faut pas les prendre comme la prédiction qu'il y aura, etc. Il suggère qu'il y a beaucoup de chrétiens anonymes partout, dans toutes les religions, donc il semble à ces universalistes dans sa tendance, avec une formule qui est très belle d'ailleurs, la grâce n'est pas rare, mais il ne va quand même pas jusqu'à dire que tous les individus seront sauvés. Il semble réserver la possibilité que quelques-uns quand même se soient endurcis à tel point qu'ils refusent. Donc ça c'est un exemple. Un exemple d'un théologien qui lui n'est pas jugé moderniste, qui est jugé plutôt conservateur, Hans Urs von Balthasar, qui a lui aussi glissé vers l'universalisme. Donc, seule vraiment une aile conservatrice assez restreinte aujourd'hui est nette sur l'existence de l'enfer en théologie catholique. Mais ça reste, je crois, quand même la doctrine officielle. Je crois, mais je ne l'ai pas regardé là-dessus. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas regardé là-dessus. Donc, je ne peux. J'ai l'impression qu'il l'affirme parce que c'est vraiment un catholicisme fort traditionnel, joliment dit, mais qui s'y exprime. Mais je ne l'ai pas vérifié.